On va donner la parole à Florence pour le message. Je vais prier pour toi, Florence. Seigneur, merci de pouvoir placer Florence sous ta houlette, ton bâton de bon berger. Pas parce que tu es un maître dur, mais parce que tu es un maître qui la conduit de dimanche en dimanche dans ce qu'elle a à nous transmettre de ta part. Et elle a besoin de ta conduite et je te prie que tu la conduises. Je te remercie d'être en ce moment le bon berger pour elle, de lui donner tout ce qu'elle a besoin et de faire de la place dans nos cœurs pour qu'on puisse recevoir cette nourriture. De ta part, Seigneur, sois béni. Merci pour l'énorme cadeau de ta parole dans nos vies. Merci au nom de Jésus. Amen.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation désespérée, de vous sentir comme dans une prison. Il arrive parfois qu'on soit dans des moments vraiment difficiles, on ne voit pas l'issue, on est comme dans la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes comme dans une prison? Eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 12 des Actes, parce que Pierre, lui, il a été à un moment donné dans une situation désespérée en prison. Nous allons lire dans Actes 12. Vers le même temps, ce même temps, c'est qu'on est à un moment charnière. On a vu que Pierre, il est allé chez Corneille, qu'il a compris que l'évangile était donné aussi aux païens. Et la persécution, elle s'intensifie de plus en plus. Au début, les Juifs, ils ont bien accepté l'Église, le début de l'Église, ils ont accepté, mais ils deviennent de plus en plus hostiles à l'évangile. La persécution à Jérusalem, elle s'intensifie de plus en plus, et c'est pour ça que tout le monde se disperse. D'ailleurs, il n'y a pratiquement plus un apôtre à Jérusalem. Il y a Pierre qui est encore considéré comme le responsable de l'église de Jérusalem, mais tous les autres sont partis. Et dans le même temps où on va lire ce texte, il y a Paul qui s'est converti et il y a Paul qui est en train de se préparer. Il est avec Barnabas à Antioche pendant une année. Ils enseignent, ils se préparent pour aller bientôt en voyage missionnaire. Et c'est à Antioche, c'est là que pour la première fois on a appelé ceux qui suivaient Jésus, les disciples, chrétiens. Alors ce mot, on ne sait pas trop qui l'a choisi, mais apparemment ce n'est pas les disciples. Les disciples entre eux ne s'appelaient pas chrétiens, ils s'appelaient disciples, c'est-à-dire suiveurs, suiveurs de Jésus. Et ça veut dire on est en action, on est en marche. Si on est chrétien, on peut aussi être écolo, on peut être UDC, on peut être PLR, on peut être végétarien, on peut être chrétien, on peut être franc-montagnard, on peut être neuchâtelois, valaisan, vous comprenez? C'est une étiquette. Les disciples, eux, étaient disciples. Pierre était disciple et il était dans une situation désespérée. Vers le même temps où Paul est à Antioche, Pierre est à Jérusalem, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales! Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés, stupéfaits de le voir. Pierre, le rayon fait de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Dans les versets suivants, Hérode, devant le peuple, refuse de donner gloire à Dieu et un ange du Seigneur le frappe et il va mourir rongé de vers. Verset 24, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Amen. Pierre donc est dans une situation désespérée. Hérode, il faut comprendre que Hérode, c'est une famille. C'est une grande famille. Il y a eu Hérode le Grand, et cet Hérode-là, Hérode Agrippa, c'est son petit-fils. Et c'est un opportuniste. Lui, ce qui est important, c'est sa personne, c'est son prestige, c'est d'être bien vu. Alors quand il a compris que les Juifs étaient hostiles à la foi en Jésus-Christ, il a fait arrêter Jacques, frère de Jean, et il l'a passé au fil de l'épée, ça veut dire décapité. Et tout ça, c'est juste pour faire plaisir au peuple juif. C'est pas pour autre chose. C'est juste pour faire plaisir. Hérode, il faut comprendre qu'il avait un peu de sang juif, pas seulement, mais il n'est pas romain. Par contre, il a été établi par les Romains sur la Judée, la Samarie, sur une grande région. Et là, il a certains pouvoirs, comme celui de donner la mort. D'ailleurs, c'est sa sœur qui a demandé la tête de Jean-Baptiste, si ça vous rappelle quelque chose. Là, on ne fait pas de quartier. Ce n'est pas exactement la même situation qu'avec Jésus, où Jésus il a été arrêté par des Juifs, il était devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, lui, ne pouvait pas condamner quelqu'un à mort. C'est pour ça qu'ils l'ont amené à Pilate. Tandis que là, on est devant, non le pouvoir religieux, mais devant le pouvoir romain. Hérode, il représente le pouvoir romain. Donc s'il veut couper la tête, il coupe la tête. Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples les plus importants pour Jésus, eh ben, c'est ce Jacques-là qui s'est fait couper la tête pour faire plaisir au peuple juif. Et quand Hérode y voit que ça fait comme ça plaisir au peuple juif, il se dit « bon, on continue !» Et hop, on arrête Pierre, on le jette dans une prison. C'est pendant la fête des pains sans levain. Au même moment, dans la même période que quand Jésus s'est fait arrêter. On ne sait pas combien de jours il a passé dans cette prison, puisque cette fête, elle dure une semaine. Mais on comprend que Hérode, ce qu'il veut faire, c'est décapiter Pierre. Il veut faire la même chose pour faire plaisir au peuple juif. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Les prières étaient instamment devant Dieu. Les prières de toute l'Église montaient devant Dieu. Certainement jour et nuit, on ne sait pas pendant combien de temps, toute l'Église priait pour Pierre. Et lui, il est bien gardé. Imaginez, il y a 16 gardes qui s'occupent de Pierre. Parce que je pense qu'Hérode, il a quand même un petit peu entendu que c'est pas le premier emprisonnement de Pierre, et puis que la plupart du temps, à peu près tout le temps, Pierre, il réussit à s'échapper, d'une manière ou d'une autre. Donc là, il a mis les bouchées doubles et même quadruples. Il a 16 gardes. Donc ils peuvent se mettre par quatre. Comme ça, pendant toutes les veilles de la nuit et de la journée, eh bien, ils alternent. Toujours deux qui tiennent Pierre lié et deux devant la porte. Et puis quand ils ont fait leur temps, c'est les quatre suivants qui arrivent. Et les gardes, ils sont pas fous. Ils dorment pas quand Pierre dort. Parce que la tradition à l'époque, c'était que si un garde laissait échapper un prisonnier, c'est ce garde qui subissait le châtiment qui était réservé aux prisonniers. Donc ils n'avaient pas forcément envie de se faire couper la tête. Alors Pierre est enchaîné à deux soldats, dans la prison, dans sa cellule. Il est dans une situation désespérée. Et parfois on est dans nos situations, dans une situation désespérée, on se dit « mais là, je suis enchaîné ». Mes pensées sont enchaînées, mes possibilités, mon corps est enchaîné, mes relations sont enchaînées, je ne peux rien faire. Alors comment est-ce que Pierre réagit? Pierre, c'est un disciple. Un disciple, il est censé être en mouvement, il suit Jésus, il suit le maître. Mais si vous vous souvenez, juste avant de renier Jésus, Pierre, il lui a dit, je te suivrai partout où tu iras, même si je dois aller en prison et même jusqu'à la mort. Et on sait qu'après, il a renié Jésus trois fois. Mais Jésus lui a pardonné. Au moment où cette histoire se passe, Jésus, il est déjà ressuscité, il a déjà parlé avec Pierre, c'est fait. Pierre, il est pardonné. Mais c'est comme si là, dans sa prison, il se dit, allez, il faut que je me récupère. Donc, je suis en prison, c'est fait, demain, on me coupe la tête. J'aurais donné ma vie pour Jésus, je serais allée dans ma prison, je serais mort pour lui, ouf, je me serais rachetée. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Jésus ne demande pas à Pierre de se racheter parce qu'il est déjà racheté. On peut pas racheter deux fois. Et Pierre ne peut pas se racheter tout seul. Et ce que Jésus veut, c'est que Pierre soit en mouvement. Jésus a encore besoin d'utiliser Pierre. Il a encore des projets. Alors la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre est en train de dormir juste avant qu'on le décapite. Il dort, il est complètement passif. Il n'est même pas en train de prier. Il n'est même pas en train de louer le Seigneur. Peut-être qu'il s'est dit, mais si je loue le Seigneur, il y a les chaînes qui vont tomber, il y a les portes qui vont s'ouvrir comme la dernière fois, et puis je devrais sortir, et puis, je devrais sortir de ma prison. Puis peut-être qu'il a juste pas envie, peut-être qu'il est juste fatigué. Ça vous arrive jamais de vous dire, il y aurait cette solution-là, mais en fait, je suis bien dans ma cellule. J'ai donné le titre à ma prédication, sors de ta prison. Recevez-le de la part du Seigneur comme un ordre. Sors de ta prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Imaginez, on est en pleine nuit. Il fait nuit noire où il y a peut-être une petite bougie quelque part, mais pas grand-chose. On est dans une prison, il ne doit pas y avoir des super fenêtres. C'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Demain, c'est la mort et la lumière de Dieu qui arrive dans cette prison et qui illumine les lieux. Et Pierre dort. Même la lumière ne le réveille pas. Pierre est passif, endormi, presque buté, comme s'il avait décidé, moi, c'est ici que je finis. Alors que fait l'ange ? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Aïe, 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 aïe ! Exode 12, c'est quoi Exode 12 ? C'est la Pâque ! C'est quoi la Pâque ? C'est quand le peuple était en prison, quand le peuple était en Égypte, ils étaient esclaves, prisonniers des Égyptiens. Ils ne pouvaient rien faire, à part des briques, et souffrir. Ils étaient sous un joug, emprisonnés. Et Dieu décide de les faire sortir de cette prison, de cet esclavage. Et pendant la nuit de la Pâque, étrangement, on est dans la même période, pendant la nuit de la Pâque, tout le peuple hébreu doit être vêtu, manger l'agneau pascal juste avant de déguerpir, juste avant de partir. Exode 12, verset 11, ils doivent manger cet agneau, et voilà ce qu'il est dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. L'ange est en train de lui dire, lève-toi promptement, vite. Ça fait écho à la hâte. Il y a une espèce d'urgence là. C'est le moment. Là, c'est le moment, il ne faut pas attendre. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour aller réveiller vos enfants ou votre conjoint ou les personnes qu'une fois vous devez aller réveiller. Je ne sais pas, dans un moment normal, bah, peut-être vous alliez y aller avec un peu de délicatesse. Coucou, c'est le matin, il faut se réveiller, il fait beau dehors, je vais un peu ouvrir les rideaux, ouvrir tes petits yeux, etc. Mais si la maison brûle, vous allez faire pareil? Ou bien vous allez débouler dans la chambre, oh, lève-toi, ça brûle, habille-toi, là, t'as tes chaussures, là, t'as ta ceinture, vite, il faut qu'on se taille. Comment vous allez faire? Eh bien, l'ange, ce qu'il est en train de faire avec Pierre, c'est ça. Il est en train de dire, la maison brûle, tu peux pas rester ici. Ici, c'est pas ta place. Ta prison, c'est pas ta place. Il faut que tu sortes. Il est en train de dire, c'est comme en Égypte. Tu es esclave de quelque chose. Tu es dans une prison, il faut que tu sortes. Eh bien, moi, je suis venu pour t'en faire sortir. L'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sort. Pierre obéit. Là, il est assez ébranlé, il est allé secouer, il comprend rien. Il comprend pas, il se dit, oh, ben, je rêve. Mais n'empêche qu'il se met en route, il sort de sa passivité. Il commence à suivre le Seigneur. Il obéit. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même. Ça vous rappelle rien? Et qui s'ouvrit d'elle-même comme la mer qui s'ouvre devant le peuple hébreu. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Durant tout le moment où Pierre avait besoin d'une intervention surnaturelle, l'ange est là avec lui. Et au moment où il peut se débrouiller tout seul, l'ange s'en va. Et Pierre, il se retrouve au milieu de la rue, il revient à lui-même, puis il dit, waouh, mais c'était vrai cette histoire. Je comprends rien, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Pierre réfléchit. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré de la main de Hérode. Ça veut dire, ok, mon destin, c'est pas celui que je pensais. Mon destin, il est autre. Donc maintenant, il faut que je fasse ce qui est dans la volonté du Seigneur. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Pierre se dit, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je ne peux pas retourner d'où je viens, parce que je vais de nouveau me faire emprisonner. Je vais pas retourner en Galilée à ma vie d'avant. Où est-ce que je vais? Je vais à l'église. Je vais où il y a mes frères et sœurs. Je vais où il y a la présence de Dieu. Je vais là où il y a des gens qui prient, des gens qui sont réveillés spirituellement, des gens qui intercèdent. C'est là qu'il faut que j'aille, parce que c'est là que je vais puiser mes forces. Et si ça se trouve, c'est parce que cette église qui prie a ouvert le ciel. C'est parce que ces prières qui sont montées constamment vers Dieu, c'est elles qui ont ouvert le ciel et qui ont fait descendre cet ange qui m'a délivré. Alors c'est là que je vais aller. Alors il décide d'aller chez cette Marie. C'est la mère de Marc, Jean-Marc. C'est celui qui, après coup, va accompagner Paul aussi. Ça va être aussi à un moment donné un fidèle compagnon de Paul. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, l'Église était persécutée, donc elle ne pouvait pas se réunir dans des endroits publics, mais c'était des églises de maison. Et certainement que Marie avait des moyens, déjà elle a une servante, Déjà, ça a l'air d'être une grande maison qui peut accueillir beaucoup de monde. Elle a mis sa maison à disposition pour que l'Église puisse s'y réunir. Alors Pierre, il va frapper, puis effectivement, l'Église est bien là. Mais là, la porte, elle s'ouvre pas toute seule. Là, il est dans la rue, il se dit, si les soldats, ils se réveillent, moi, je suis mal. S'il se passe quelque chose, qu'ils se rendent compte que je suis pas là, ils vont me reprendre. C'est pas le plan de Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Alors, il frappe, il est vraiment actif. Il frappe. Hérode, elle va écouter. Il dit, mais c'est Pierre! Oh, c'est Pierre, alléluia, c'est Pierre, c'est super, c'est Pierre. Mais elle ouvre pas. Comment comprendre ça? Qu'est-ce qui se passe en elle? Elle est dans la joie, ça la réjouit, mais elle ne va pas plus loin. Un peu comme quand on voit qu'il y a une solution et puis c'est génial cette solution. Mais je ne m'en saisis pas. C'est génial cette clé qui pourrait ouvrir ma prison. Il paraît que si j'écoute ce que le Seigneur me dit, il paraît que si, que ça, ben, ça veut dire que c'est comme si je tourne la clé et puis la porte s'ouvre. C'est génial. Il faut juste aller la chercher, cette clé. Eh bien, Rodet, toute contente. Waouh, c'est Pierre, il est délivré. Alléluia, magnifique, la vie est belle. Et les gens disent, mais elle a fumé la moquette. Mais elle divague complètement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et Pierre, lui, il continue à frapper. Il continue, parce que ça urge. Et pour finir, ils disent, non, mais c'est son ange, là. Ils entendent bien que ça frappe. Ils disent, mais c'est son ange. Parce qu'à l'époque, on croyait encore un peu au double spirituel. En tout cas, dans les religions orientales, on croit à un double spirituel. Et puis au niveau juif, ben, on pensait à l'ange gardien. Donc là, c'était beaucoup moins occulte. Et effectivement, les anges existent. Donc ils se sont dit, ben, c'est un ange, l'ange du Seigneur, un ange du Seigneur qui est avec Pierre. Et puis c'est à peu près la même voix. Mais ça peut pas être Pierre. Pierre, il est enchaîné, il a 4 escouades de 4 soldats. Enfin, c'est pas possible. Et ils vont voir. Et Pierre continue à frapper. Ils ouvrent le portail et c'est Pierre. Et ils sont stupéfaits. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont stupéfaits? Parce que c'était impossible que Pierre soit délivré? Ou parce qu'ils ont prié pendant des jours, nuit et jour, sans croire que Dieu était capable de faire un miracle? Est-ce qu'ils sont stupéfaits parce qu'ils étaient remplis d'incrédulité? Ça nous pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Pour quoi? Pour quelle raison est-ce qu'on prie? Dans quel sens est-ce qu'on prie? Est-ce que je prie pour me dédouaner de quelque chose que je dois faire parce qu'il est marqué dans la parole « prier sans cesse » et qu'il y a plein de versets qui me disent que je dois prier? Est-ce que je prie pour ça? Est-ce que je prie pour faire plaisir au Seigneur? Est-ce que je prie pour me donner bonne conscience? Est-ce que je prie parce qu'il faut? J'ai un petit fond de religiosité là, alors je prie. Ou est-ce que je prie parce que je sais que quand je prie, le Seigneur qui est au ciel descend au travers de ma prière pour aller changer les circonstances? C'est le principe que Dieu a mis en place. Il pourrait tout faire tout seul, Dieu, mais ça, c'est pas son choix. Il a décidé d'utiliser ces créatures pour s'occuper de la terre, pour agir sur la terre. Et la manière de faire, puisque les créatures que nous sommes, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, c'est de prier pour que Dieu puisse, au travers de nous, agir. Et chaque fois qu'on prie, si on a conscience de ça, ma prière est efficace. Ma prière, elle va atteindre la cible, et quand en plus de ça, je prie avec la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est son Saint-Esprit, eh bien c'est normal qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est la prière de la foi. C'est de comprendre que ma prière n'est pas vaine, ma prière n'est pas vide. Ma prière, elle est remplie de la volonté de Dieu, du Saint-Esprit, et c'est lui qui a la puissance. Moi, je peux pas aller faire tomber des chaînes, je peux pas ouvrir une porte de fer comme ça, je peux pas. Mais au travers de ma prière, Dieu le peut. Alors quand, nuit et jour, tu intercèdes pour quelque chose, puis que tout à coup, tu as l'exaucement, ne sois pas incrédule. Mais bénis le Seigneur, va ouvrir la porte. Viens, Pierre, entre. Pierre, le rayon fait signe de la main de se taire, le raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux autres. » Et lui, il part dans un autre lieu. On a vu tout à l'heure Jacques, il s'est fait couper la tête. C'est pas de ce Jacques-là que Pierre parle. Pierre, il a compris qu'il ne peut plus vivre à Jérusalem. La persécution est trop grande. Il doit continuer ailleurs. Et on ne sait pas où, parce que depuis le chapitre suivant, le focus, il est sur Paul. Mais Pierre, il dit, dites-le à Jacques. Et Jacques, c'est le frère ou demi-frère de Jésus. Et c'est ce Jacques-là, en fait, c'est comme si c'est une phrase stratégique, parce que Pierre, il est en train de donner le flambeau à Jacques. Il est en train de dire, moi, je dois quitter Jérusalem. Toi, Jacques, qui n'est pas un des douze, c'est pas un des apôtres du début, il n'y aura plus d'apôtres à Jérusalem. Il lui dit, toi, Jacques, reprends les rênes de l'église de Jérusalem. Moi, je pars ailleurs. C'est vraiment stratégique dans l'histoire de l'Église. Et c'est aussi depuis tous ces événements que l'Église a commencé à se disperser et que pendant des années, Antioche est devenue la capitale de la foi chrétienne jusqu'à ce que ça se répande, que l'Évangile se répande encore plus. Et que fait Pierre à ce moment-là? Pierre, le rayon de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Pierre, là, enfin, il fait vraiment son rôle de disciple. Il témoigne. Il raconte comment le Seigneur a agi. Et c'est ce que nous sommes appelés en tant que disciples. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes disciples? Si nous sommes chrétiens, nous avons une étiquette, on est bien, on peut rester longtemps dans notre prison. Si nous sommes des disciples, nous devons nous mettre à l'action, nous devons nous mettre en marche. Ça n'empêche pas qu'on peut se trouver dans une prison, mais chercher le Seigneur dans cette prison. Chercher des frères et sœurs pour nous aider. Chercher dans la prière, chercher dans la parole, chercher dans une communion profonde avec le Seigneur en disant, mais Seigneur, comment toi tu interprètes ce que je suis en train de vivre? Seigneur, comment je fais pour aller choper cette clé que tu me donnes? Seigneur, comment toi tu vois les choses? C'est quoi la première étape? C'est d'avoir un vrai cœur à cœur avec le Seigneur pour lui dire, mais moi, je veux sortir de là. Peut-être ça ne va pas se faire tchlac comme ça. C'est assez rare que ça, d'un coup de claquement de doigts comme ça, que nos circonstances s'éclaircissent. Ça peut arriver, c'est assez rare. Le Seigneur veut qu'on établisse une communion avec lui solide, jour et nuit, jour après jour, constante. Il veut nous édifier, nous faire grandir petit à petit. Et petit à petit, il nous fait sortir de la prison. Petit à petit, il nous montre où est la lumière. Petit à petit, il nous montre où est la clé. Petit à petit, il nous montre comment la saisir, comment la mettre dans la serrure, comment la tourner, comment faire que les portes s'ouvrent. Petit à petit, mais il le fait. Il le fait vraiment. Mais nous devons être actifs. Nous devons être des suiveurs de Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu dis de ma situation? Qu'est-ce que ta parole dit de ma situation? Quand il fit jour, les soldats ont été dans une grande agitation parce que Pierre n'était plus là. Ils ont été menés au supplice, certainement, les soldats se sont fait décapiter. Terrible. Terrible, mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et ce qu'on sait pour Pierre, qu'on pense savoir, c'est qu'il est certainement mort en martyr. La Bible ne nous le dit pas, mais il y a d'autres documents historiques qui... Par tradition, on dit qu'il s'est aussi fait crucifier, qu'il aurait demandé qu'il ait la tête en bas. Ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais il y a assez de textes, je crois, qui nous font penser qu'il est mort de la persécution. Être un suiveur de Jésus, être un disciple de Jésus, ça ne veut pas dire que tout est rose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Au contraire. Jésus, c'est une des premières choses qu'il a dit, qu'on aurait des persécutions. Mais c'est lui qui décide quand, comment, où. Et on sait aussi qu'au ciel, on aura un poids éternel de gloire. Alors plus notre communion sera intense avec lui, plus on pourra aller jusqu'au bout de l'appel qu'il nous adresse à chacun personnellement. Mais le message aujourd'hui, c'est « sors de ta prison ». Ne reste pas assis, ne te complais pas, ne dors pas entre deux soldats. Sors de ta prison. Alors j'aimerais dire ce matin, si tu es dans une prison par ta faute, parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, parce que tu sais très bien que tu as ta part de responsabilité, moi je t'encourage, règle tes affaires. Règle tes affaires avec Dieu. Va trouver un frère, une sœur en qui tu as confiance. Confesse-toi. Demande de l'aide, mais règle tes affaires. Si tu es dans une prison et que ce n'est pas ta faute, va chercher des frères et sœurs pour demander de l'aide dans la prière. Mais ne compte pas sur tes frères et sœurs, compte sur Dieu. C'est important d'avoir des vis-à-vis, mais c'est important de comprendre que la délivrance, elle vient d'en haut. Tes frères et sœurs, ils ne peuvent pas faire le miracle à la place de Dieu, mais ils peuvent se tenir avec toi dans la douleur et dans la prière. Ça, ils le peuvent, pour que Dieu agisse. Et si tu veux être un disciple, alors mets-toi en marche. Réveille-toi, lève-toi, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau et sors. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante, agissante. Tu parles à nos cœurs. Chacun d'entre nous, on sait très bien dans quelle prison on peut se trouver aujourd'hui. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît qui est dans une prison. Mais ta parole nous prouve que tu es tout puissant et que tu n'es pas limité pour nous faire sortir des pièges dans lesquels on est tombé ou dans la persécution qu'on subit, dans les difficultés. Rien n'est trop difficile pour toi. Et merci parce que ta parole nous dit que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que même dans les plus grandes persécutions, tu es toujours avec nous. C'est toi qui soutiens notre âme, notre cœur, notre corps. C'est toi qui nous aide à supporter la souffrance. C'est toi qui nous permet d'être dans la joie, même dans la souffrance, quelle qu'elle soit. C'est toi qui nous permet d'être en marche, même si notre corps ne veut pas suivre. C'est toi qui nous permet d'être à l'action, même si les circonstances veulent nous en empêcher. Seigneur, que notre cœur t'appartienne entièrement, que nos pensées t'appartiennent entièrement, que nos motivations t'appartiennent entièrement. Je te demande ce matin une révélation pour tous ceux qui en ont besoin, pour tous ceux qui sont maintenant dans une prison. Je te demande d'aller rejoindre les cœurs et de leur dire comment se mettre en marche, comment se réveiller. Je te demande d'envoyer un ange qui aille les frapper aux côtés en leur disant « Lève-toi promptement. » Tu sais de quelle manière tu peux le faire pour chacun. Je te demande d'intervenir, Seigneur. Que les vies soient transformées et que nous soyons tous en marche. Que nous soyons tous à ta suite, Jésus. Pas des chrétiens de nom, mais des disciples de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, je bénis ton nom. Gloire à toi, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Si quelqu'un maintenant aimerait se manifester pour dire « Moi, j'ai besoin de sortir de prison », je vous invite à vous lever. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui sont debout devant toi. Toi, tu connais toutes les prisons dont il s'agit. Tu sais exactement, Seigneur. Moi, je te demande ta grâce et je te remercie pour ta grâce. Je te demande d'ouvrir le ciel et de descendre par ton Saint-Esprit. Donne un esprit de révélation à chaque personne, un esprit de révélation qui te fasse connaître en pleine intelligence, qu'ils connaissent ton amour, qu'ils connaissent ta volonté pour leur vie. Je te demande d'illuminer leurs yeux spirituels, les yeux de leur cœur, de faire tomber les écailles de leurs yeux pour qu'ils puissent voir comment tu veux agir dans leur situation. Je te demande de leur aider à te donner leur propre volonté, qu'ils puissent abandonner leur propre volonté et écouter la tienne, suivre tes voies. Donne-leur de te suivre. Donne-leur de voir où est la clé. Comment la saisir? Comment la mettre dans la serrure? Comment tourner? Comment pousser la porte? Comment sortir? Seigneur, tu vois toute situation, c'est un témoignage. Si ces personnes sont debout, c'est qu'elles témoignent, qu'elles veulent que ça change. Alors je te demande de leur donner la force de sortir. Au nom de Jésus-Christ, sortez de votre prison. Au nom de Jésus-Christ, que vos chaînes tombent, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, sortez, sortez de vos prisons. Que les portes d'airain s'ouvrent, que les verrous de fer soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ et que les vies soient libérées. Jésus est venu pour délivrer des captifs, pour libérer les prisonniers. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ et soyez couverts de son Saint-Esprit qui vous dirige. Et de la faveur du Père qui vous aime d'un amour éternel et qui sera toujours fidèle à vos côtés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Florence nous disait que plus on est en communion avec le Seigneur, plus on sera prêt à aller là où lui veut qu'on aille, à sortir de nos prisons. Et puis, je pense que c'est bien si on a un petit moment maintenant aussi de communion personnelle pendant le chant. Si vous voulez chanter, vous pouvez chanter.
Mon Dieu, voilà qui tu es. Ce Dieu qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, c'est le même qui a fait sortir Pierre de sa prison, des siècles et des siècles après. Et c'est le même qui est maintenant vers nous pour nous dire « Sors de ta prison ». C'est le même qui nous sauve. Dieu est éternel, il est toujours le même. Voilà le message que j'ai pas dit tout à l'heure, qu'il faut aussi retenir. Nous avons besoin de délivrance. Et celui qui délivre, c'est le même de toute éternité.